Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Ce jeudi 13 mai restera dans l'histoire à Rumilly-Vallières, en Haute-Savoie. Le petit club de 4e division dispute ce soir la demi-finale de la Coupe de France face à Monaco. C'est le foot comme on l'aime, sans flamme et méjaquet. Nous serons en ligne avec l'un des présidents du club. Un week-end de l'Ascension déconfiné mais surveillé. Nous irons à Lille où l'on distribue dans les gares des autotests pour inciter les voyageurs à rester prudents. Et dans le Morbihan, on compte bien vacciner tout le week-end. Dans RTL Midi aussi, la traque continue dans les Cévennes. Un appel à témoins a été lancé ce matin pour débusquer le meurtrier présumé de 2 personnes, un homme dangereux et lourdement armé. Israël et la bande de Gaza s'enfoncent dans la guerre et la rébellion des Arabes qui vivent dans des villes mixtes fait craindre le pire. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Alors comme ça, c'est un jour férié aussi pour le soleil.
Oui, c'est ça en fait, avec encore beaucoup de nuages, beaucoup d'averses sur la France. Alors, je regarde, ça tourne et retourne. En ce moment, il y en a beaucoup dans le nord-est. Il y a une petite accalmie sur l'Île-de-France, mais les averses sont pas très loin. Ça repart de plus belle sur la Normandie ou encore dans le sud-ouest, et tout ça va alterner au fil des heures tout au long de l'après-midi. Beaucoup de nuages, des averses, un peu de neige en montagne, si, à partir de 1500 mètres sur les Alpes du Nord. Et puis quand même, au milieu de tout ça, un peu plus d'éclaircies, notamment près de la Méditerranée, où là, avec un peu de chance, vous passerez au travers des averses. Le vent sera également de la partie, 100 km/h au nord et au sud de la Corse. Et puis côté température, ce n'est toujours pas ça. 12 à 14 degrés seulement près de la Manche cet après-midi, ce sont plutôt des températures de fin mars. 15 à 17 degrés dans les autres régions, et 20 à 23 quand même près de la Méditerranée.
La question du jour sur RTL.fr, la Coupe de France vous fait-elle encore rêver? Eh bien, vous êtes 84% à nous répondre non. Il n'y a que 10% de oui. C'est une réponse assez étonnante. Bonjour Pascal.
Oui, c'est étonnant, mais peut-être que plus rien ne fait rêver finalement aujourd'hui en France, ni la Coupe de France, ni rien d'autre. En tout cas, vous pourrez en parler. Autre sujet, un texte poignant, émouvant, quasiment un an après la mort de Guy Bedos, le 28 mai 2020. Son fils Nicolas s'est confié dans l'Obs sur cette fin de vie douloureuse. Mon père voulait mourir autrement, et il y révèle avoir aidé son père à mourir. C'est le week-end de l'Ascension, il y avait un monde fou, comme on dit, sur les routes. Certains ont mis 5 heures pour rallier la Normandie, entre Paris et la Normandie, là où on met d'habitude 2 heures. Donc vous êtes peut-être en ce moment en vacances ou au camping, que sais-je, en balade, appelez-nous. Et puis, on a beaucoup parlé des espaces libertins ces derniers jours avec Jean Lassalle. Eh bien, question peut-être étonnante, mais comment, si vous êtes libertin depuis un an, vous vivez cette période particulière? Puisque les boîtes, si j'ai bien compris, les échanges dans ces endroits-là sont interdits. Eh bien, appelez-nous au 3210, pourquoi pas.
Au 3210, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Premier week-end à rallonge de liberté, comme une répétition générale des grandes vacances. Vous êtes plusieurs millions à profiter de ce week-end pour bouger. Mais dans le contexte du Covid, il ne faut pas oublier les règles élémentaires de prudence. Dans les Hauts-de-France, 43 000 autotests sont distribués tout le week-end, et notamment en gare de Lille, aux voyageurs, Antoine Decarne.
Oui, et surtout vers ceux qui ont des valises XXL pour rejoindre des amis ou passer ce pont de l'Ascension en famille. Les bénévoles de la Croix-Rouge sont sur les quais.
Bonjour madame.
Bonjour. Est-ce que je peux vous proposer un autotest? Ça vous permet de pouvoir vous tester plus facilement et puis...
Pourquoi pas.
Blandine n'avait justement pas eu le temps de faire un test.
Je venais sur l'île pour des raisons professionnelles et je rentre chez moi. Donc là, normalement, ça devrait me faciliter la vie.
Et le dispositif a du succès, les explications sont assez rapides.
Vous ouvrez la tablette, vous y déposez 4 gouttes et vous avez le résultat en 10 minutes.
Mais c'est extraordinaire.
Ah. Bon voyage.
J'ai bien fait de demander, c'est une bonne idée. Je peux en avoir un pour mon mari? Ça va permettre de voir si on peut se libérer un petit peu.
Même si certains ne savent pas encore s'ils vont faire cet autotest.
Si jamais j'ai un doute, je pense que je l'utiliserai.
C'est une bonne idée quand même, même si ça fait un peu peur au premier abord.
Si vous êtes positif, vous faites demi-tour?
Bah oui, je vais préserver quand même mes amis et les personnes qui habitent aux alentours.
C'est l'ARS Hauts-de-France qui fournit ces 43 000 autotests pour le week-end. Jean-Luc Robillard dirige la distribution pour la Croix-Rouge.
Comme les gens vont voyager, vont se relâcher, ça permet de dire, bon bah voilà, je suis positif, je me mets à l'écart.
Et ces autotests sont à disposition dans toute la région, notamment dans les zones touristiques, mais aussi dans les centres commerciaux.
Antoine de Carnat, la gare de Lille-Flandre. Il y a beaucoup de monde sur la côte d'Opale, c'est vrai, du côté de chez Antoine, qui affiche quasiment complet, mais aussi du côté des châteaux de la Loire. Et même si la météo est poussive et que les châteaux n'ont pas encore rouvert, sauf les jardins, à Amboise, rien n'entame le bonheur des touristes, Christian Panvert.
Absolument, j'ai croisé beaucoup de touristes ce matin, pas mal de Parisiens, comme Yann qui vient de louer un vélo avec son épouse.
C'est vrai que c'est très beau de voir les éclaircies, le soleil venir, la lumière changer, tous les bruits de la nature. J'habite à Paris, mais j'ai grandi à la campagne, et donc il y a une espèce de chose qui s'ouvre pour moi dès que je vois des arbres. On dit souvent que les gens qui vieillissent, ils se souviennent pas forcément des gens qu'ils ont connus, mais des paysages de leur enfance, et c'est quelque chose d'assez important, quoi.
Frédéric et Jessica regardent un plan de la région. Ils sont arrivés hier de Lyon avec leurs deux enfants, et ils comptent bien profiter de leur week-end.
Randonnée principalement, promenade, peut-être un peu voir les châteaux de l'extérieur, même si on peut pas les visiter à l'intérieur, c'est quand même bien déjà de les montrer aux enfants.
Chenonceau, on va essayer de s'en approcher, voir la pagode aussi, on peut la voir un petit peu de l'extérieur.
La pagode, c'est la pagode de Chanteloup, haute de 40 mètres. Elle domine un parc de 14 hectares. Alexandre est en CM2. Il profite de ce séjour pour réviser, dans les grandes lignes, ses cours d'histoire.
Je sais que Léonard de Vinci avait une maison ici, qu'il est enterré dans la chapelle du château. Et aussi que le roi François Ier, il est venu et habitait ici pendant un moment, car il aimait bien Amboise.
Au programme pour Alexandre demain, un autre château qu'aimait bien François Ier, celui de Chambord.
Voilà, et ça n'empêche pas de se cultiver. Merci Christian. Dans les centres de vaccination, pas question de faire le pont, c'est plutôt tout le monde sur le pont. Alors qu'un Français sur quatre a déjà reçu une première dose de vaccin, il faut accélérer encore. Direction le Morbihan, où un habitant sur trois a déjà été vacciné. Et à Vannes, Patrice Gabart, on pique à tour de bras.
En effet, la file d'attente du centre de vaccination Carcado à Vannes ne désemplit pas depuis ce matin.
Alors les personnes avant 9h35, comme ça vous allez être...
Ah bah c'est nous, merci.
Eh ben je travaille pas aujourd'hui, j'ai pas le choix, donc je suis venue aujourd'hui.
J'ai réussi facilement à avoir mon rendez-vous et puis j'ai pris un jeudi, puisque c'était jeudi où je travaille pas, c'est tout. C'est tombé sur jour férié. Après je vais faire mes courses.
Moi je viens simplement pour accomplir mon devoir de citoyen, pour qu'on s'en sorte de ce virus, que tout le monde prenne en conscience qu'il faut en arriver là, il faut se faire vacciner.
Même un jeudi de l'Ascension?
Ah oui, tout à fait, peu importe le jour.
Une trentaine de personnes sont présentes pour faire fonctionner le centre, dont 13 médecins, infirmiers libéraux et pompiers pour assurer les vaccinations. Valérie Jouvet, directrice générale adjointe du centre hospitalier Bretagne-Atlantique.
Les dotations complémentaires que l'ARS nous a attribuées ont effectivement conduit à renforcer simplement les effectifs aujourd'hui. Et pour les personnels qui travaillent sur ces fériés, il y a effectivement une évolution de leur rémunération qui a été prévue par l'État et par la Sécurité sociale. Pour un médecin, c'est par exemple 40 euros de plus aujourd'hui sur son forfait habituel.
C'est aussi 20 euros de plus pour les infirmiers. 1300 personnes seront vaccinées aujourd'hui à Vannes.
On entre dans une période à risque, dit ce matin le président de la commission médicale des hôpitaux de Paris, Rémi Salomon. Il y a 3 ou 4 mois difficiles à passer avec le relâchement progressif des mesures de restriction. Si on vaccine beaucoup, explique-t-il, on peut passer l'été sans quatrième vague.
Marcel, 2 cafés pour la 4, s'il te plaît.
Et un soda pour la petite dame.
Dans 6 jours, on va retrouver ce bruit. Les rues vont reprendre vie avec la réouverture des terrasses et des commerces. Chaque jour, RTL vous fait vivre les préparatifs. Direction le grand magasin du printemps à Paris, où le personnel reprend du service. Et dans les vitrines, les maillots de bain chassent les pulls à col roulé. Armel Lévy.
Alors là, je vous emmène dans les vitrines, donc par l'intérieur. Et on va tout vérifier, tout nettoyer.
En temps normal, David Molière, le responsable artistique du printemps, change tous les 2 mois les 11 vitrines du boulevard Haussmann. Mais depuis le 31 janvier, le temps s'est arrêté.
Là, il y a encore des pulls, vous voyez, donc il y a encore des petits changements à faire. Parce qu'entre janvier et maintenant, vous avez la petite robe courte, les couleurs de l'été. On va rendre un peu plus estival tout ça. Ça fait du bien.
Donc avec son équipe et les stylistes du magasin, il place en toile de fond du ciel bleu dans les vitrines et des arcs-en-ciel qui collent au thème choisi pour cette réouverture.
C'est un air de printemps, tout tourne autour de la légèreté, donner de l'évasion et du coup c'est pour ça qu'on retrouve dans chacune des vitrines des verbes qui accompagnent cette histoire comme respirer, rencontrer, partager, vivre. Donc, cette vitrine c'est un vecteur d'image de l'enseigne, mais c'est aussi rythmer la vie du magasin et donner une bouffée d'oxygène dans un monde qui est compliqué en ce moment.
Des vitrines que les passants et les touristes pourront découvrir jusqu'à la fin de l'été.
Reportage Armel Lévy. Une pause et dans un instant, c'est jour de fête à Rumilly.
RTL Midi. RTL Midi avec Christelle Rebière.
C'est un jour qui marquera l'histoire des Hauts-Savoyards et d'une ville de 15 000 habitants. Rumilly et son club de foot associé à Vallières savourent l'ivresse de la Coupe de France. Ils rencontrent ce soir en demi-finale Monaco au Parc des Sports d'Annecy. Ça fait 21 ans qu'un petit club de 4e division n'était pas parvenu à ce stade de la compétition. À l'époque, c'était Calais. Et Rumilly a pavoisé ses rues et ses commerces aux couleurs du club. Le bleu, Raphaël Vantard.
Et oui, faute d'aller au stade, c'est dans la rue que les supporters de Rumilly-Vallières commencent à donner de la voix. Première étape devant l'une des boucheries de Rumilly. Gaston vient d'acheter le maillot bleu collector du GFA.
Bah, j'espère qu'ils vont gagner. On croise les doigts. C'est une équipe qui sont du cru. Grâce au foot, ça fait connaître la ville de Rumilly. C'est exceptionnel, ouais.
Et beaucoup de jeunes supporters s'apprêtent à faire une haie d'honneur tout à l'heure sur le parcours des petits minibus des joueurs.
Moi, j'ai hâte parce que c'est les meilleurs amis à mon père qui vont jouer. Donc, je suis très content pour eux et j'espère qu'on va gagner.
Bah ouais, de toute façon, ils vont gagner. Bah, parce qu'on est les meilleurs.
Déjà, c'est exceptionnel, c'est un rêve éveillé aujourd'hui. Allez Vallières, allez le GFA.
Ça fait du bien dans cette période. Toute la semaine, les joueurs ont entendu cette phrase en allant au travail, faire les courses ou chercher les enfants à l'école. Fatsa Amgar, l'entraîneur, sait que lui et ses joueurs apportent dans cette période un peu plus qu'une joie sportive.
Ouais, c'est super beau de se voir, nous, les joueurs, à travers la ville. L'objectif aussi, c'est de rendre les gens heureux.
Pour vous, le scénario idéal, ça serait quoi ?
On va souffrir pendant 95 minutes, on va résister. Puis à la 92e, par exemple, sur un coup de pied arrêté, on met cette tête qui arrive au fond et le stade explose.
Et c'est tout le mal qu'on leur souhaite. En cas de victoire, on ne va pas se mentir, le couvre-feu risque d'être très difficile à faire respecter à Vallières et Rumilly.
C'est clair, Raphaël Vantard. La Coupe de France vous fait-elle encore rêver ? C'est la question du jour sur RTL.fr. Et vous allez y revenir, Pascal Praud, avec les auditeurs dans un quart d'heure.
Mais oui, parce qu'il y a beaucoup de choses dans la Coupe de France. Il y a David contre Goliath, il y a aussi le foot de jadis, quand les joueurs appartenaient à une équipe, était identifié à une ville, une région, une authenticité, un engagement, des couleurs, un maillot. Aujourd'hui, le foot pro est parfois désincarné, les footballeurs perçus comme des mercenaires. Là, c'est tout le contraire. C'est la noble incertitude du sport. C'est la magie d'une compétition séculaire qui a parfois un peu pâli à travers les années, notamment parce que les matchs n'étaient pas forcément programmés le week-end. Alors, Rumilly, Vallières, bah, c'est l'épopée toujours renouvelée. Rappelez-vous Calais, rappelez-vous Quevilly. Rappelez-vous aussi Trinquant. Trinquant, ce club imaginaire dans le film de Jean-Jacques Haneau, Coup de tête en 1979. Oui. Et ce slogan éternel, trinquant, 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 but, but, but.
Et nous sommes en ligne avec François Baudet, l'un des quatre coprésidents du GFA Rumilly-Vallières. Bonjour.
Bonjour.
Dites-moi, plus le club est petit, plus il y a de coprésidents.
Ouais, c'est un petit peu la particularité de notre club. En fait, bon, c'est un petit peu lié à la fusion.
Oui.
Des deux clubs, Rumilly-Vallières, il y avait deux coprésidents de chaque côté. Et puis, on a pris le parti et le pari de reconduire les quatre coprésidents.
Et de garder.
Donc, c'est vrai que c'est un petit peu atypique, mais en tout cas, ça fonctionne bien.
Bon, sérieusement, vous avez fait un parcours extraordinaire, hein, notamment en éliminant Toulouse au tour précédent. Quoi qu'il arrive ce soir, est-ce que vous n'avez pas déjà gagné ?
Oui, effectivement, quoi qu'il arrive, pour nous, c'est que du bonus. Donc, ça fait un petit moment qu'on se le dit, hein, depuis les 32e, on se dit que c'est que du bonus. Donc notre objectif c'était de rencontrer une Ligue 1 et puis en fait ben voilà ce soir notre vœu va être exaucé et en plus contre l'AS Monaco donc c'est encore plus fort.
C'est la classe. Dans votre club certains joueurs amateurs ont aussi une activité professionnelle. Comment se sont-ils préparés à ce rendez-vous ?
Ben disons que nous aujourd'hui c'est vrai qu'on a que 5 contrats fédéraux au niveau de l'équipe donc aujourd'hui les 3/4 de l'équipe ont un boulot à côté. Et donc cette préparation, ben c'est vrai qu'elle a démarré depuis un petit moment. Hein. On a eu l'arrêt des championnats fin octobre l'année dernière, et puis une reprise de la Coupe de France en début d'année. Donc avec les couvre-feux, ben au début on s'est entraîné très tôt le matin. Hein, les joueurs venaient à 6h30, 7h à l'entraînement. Derrière enchaînait une collation.
Ah oui, ça pique un peu. Ouais. Hein.
À l'heure où Neymar se couche d'habitude, c'est ce que vous voulez dire.
Ouais, vous pouvez l'interpréter comme ça. Ouais. On était un petit peu en chasse et croisée. Donc voilà. Puis après, on a eu un petit peu de voilà, la fédération a donné un petit peu de souplesse et on a pu reprendre des entraînements en fin de journée. Donc nous, on s'entraîne après le travail.
Il y a une frustration quand même, c'est qu'il n'y aura pas le public ce soir. Ça, c'est la vraie frustration pour un club amateur qui ne pourra pas partager cette joie-là.
Ouais, c'est un vrai crève-cœur de ne pas pouvoir partager parce que. Nous, en plus, les dirigeants, les joueurs, le staff, on est un peu dans notre bulle, mais c'est vrai que on a cette problématique de pas pouvoir partager avec tous les supporters. Mais bon, malgré tout, On reçoit tellement de messages d'encouragement, déjà du département, même de toute la France, donc ça réchauffe le cœur quand même.
Est-ce que vous mesurez déjà l'impact de la Coupe de France ? Il paraît qu'on s'arrache le maillot de Rumilly-Vallières.
Ouais, c'était un petit peu l'histoire de cette Coupe de France. Les premières fois, on a démarré à commencer à vendre 500 maillots, après on est passé à 1000. Et puis après, là maintenant, on a presque atteint 4000 maillots. Donc sur 3 ou 4 jours de vente. Donc ça a été assez exceptionnel. Donc c'est vrai que les gens, il y a eu un vrai engouement là-dessus.
Et ça veut dire aussi que quoi qu'il arrive, vous aurez gagné beaucoup d'argent. Qu'est-ce que ça va changer pour le club?
Ouais, ça c'est souvent la question qu'on nous demande. C'est oui, on a gagné beaucoup d'argent, mais on va être raison gardée et on va gérer ça en bon père de famille. On va plutôt mettre l'argent de côté pour l'instant et puis continuer à faire progresser notre club sans brûler les étapes. Et on est un jeune club, donc on a besoin de se structurer, on a besoin de renforcer nos structures aussi en termes d'équipement. Donc voilà, on va plutôt et puis axer le projet principal reste la formation chez nous. Donc voilà, c'est un petit peu nos vecteurs sur lesquels on va se renforcer.
Il est 12h47, les joueurs sont où en ce moment et où ils étaient hier soir? Est-ce qu'ils étaient au vert?
Alors non, nous on reste très amateurs dans le principe, donc aujourd'hui les joueurs sont chez eux. Et
en ce moment même
pour nous aujourd'hui.
Ouais, en ce moment. Ils vont arriver donc au dernier moment au stade?
Non, en fait, on a prévu de se regrouper donc à 16h à notre stade à nous à Rumilly. Et puis, donc voilà, il y aura une petite causerie, etc., petite collation. Et puis, on prévoit un départ vers 18h30. Et donc, comme vous l'aviez dit au début du reportage, voilà, on va organiser une haie d'honneur dans le centre-ville de Rumilly avant de partir au Parc des Sports d'Annecy.
Et en cas de victoire, vous jouez la Coupe d'Europe en finale?
Non, on s'est encore pas projeté jusqu'à là, donc étape par étape.
Mais rêvons un peu.
Ouais, si on rêve, ouais, alors faut rêver très fort, hein, parce que un coup Monaco, un coup Paris, ça reste quand même surréaliste de pouvoir arriver jusque-là, quoi.
Eh ben, c'est un beau parcours, en tout cas. Merci beaucoup, François Baudet. Dans un instant, merci, à bientôt. Nous partons dans les Cévennes, où un meurtrier armé est toujours en fuite.
RTL Midi. Avec Christelle Rebière.
48 heures maintenant que plusieurs centaines de gendarmes sont mobilisés pour retrouver dans les Cévennes cet homme de 29 ans, suspecté d'avoir tué son patron et l'un de ses collègues dans la Syrie où il travaillait dans le Gard. Le village des Plantiers est toujours bouclé sous haute surveillance car l'homme est un tireur chevronné et lourdement armé. Hugo Hamelin, vous êtes sur place pour RTL où un appel à témoins a été lancé ce matin.
Oui, avec une photo et tout son signalement. Il mesure 1m70, cheveux courts, châtains, habillé d'un pantalon treillis et d'une veste de camouflage. Et déjà, de premiers résultats pour cet appel à témoins diffusé dans le Gard et dans les départements limitrophes. Plusieurs personnes ont appelé les enquêteurs ce matin et des vérifications sont en cours. On vient de voir passer 3 véhicules de gendarmerie et une brigade cynophile en direction de Saint-André-de-Valborgne. Car l'une des hypothèses, c'est que le tireur présumé soit sorti de la zone de 15 km², survolé et quadrillé depuis plus de 2 jours. L'Office national des forêts vient prêter main forte, notamment sur la cartographie dans ce secteur qui compte de nombreux abris, d'anciennes bergeries à l'abandon. Les militaires sillonnent prudemment ce maquis, casque lourd, gilet pare-balles et doigts sur la gâchette, car gare à celui qui le croisera en premier. Alors on mise sur l'épuisement, sur le manque de nourriture pour essayer de cueillir ce sniper amateur sans effusion de sang.
Hugo Hamelin en direct des Plantiers pour RTL. Le corps d'une jeune fille de 18 ans a été retrouvé lundi dans une rue de Pontault-Combault en Seine-et-Marne. Elle a été identifiée hier, mais c'est toujours le mystère autour des circonstances du meurtre, Guillaume Chiez.
Oui, puisqu'à ce stade, tout ce que l'on sait, c'est que cette jeune fille est originaire de Dunkerque, qu'elle vivait seule avec sa mère à plus de 300 km de l'endroit où son corps a été retrouvé. Les premiers éléments de l'enquête ont permis de déterminer que le meurtre avait eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi dernier, mais rien n'explique pour le moment la barbarie que la jeune fille a subie. Elle est morte étranglée, son visage tuméfié. Elle a également été brûlée dans le dos après son décès. Et lors de sa découverte, son corps était partiellement dénudé. Les enquêteurs ont acquis la certitude que la jeune femme n'avait pas été tuée à Pontault-Combault, mais dans le département voisin de Seine-et-Marne. Aucun mobile pour le moment, aucun suspect non plus. Les enquêteurs tentent de retracer son agenda de dimanche dernier, qui elle a vu, ce qu'elle a fait les heures précédant sa mort violente.
À l'étranger, une troisième nuit d'affrontement affrontement entre Israël et les Palestiniens de la bande de Gaza. D'après le Hamas, 83 Palestiniens ont été tués dans des raids israéliens depuis lundi. Le mouvement islamiste multiplie les tirs de roquettes contre l'État hébreu et un autre front s'est ouvert avec des émeutes dans des villes judéo-arabes. Israël annonce un renforcement massif des forces de sécurité dans ces villes mixtes au bord de la guerre civile. Émilie Beaujard, qui sont ces Arabes israéliens ?
Alors les Palestiniens d'Israël représentent environ 20% de la population totale. Ils sont les descendants des Palestiniens restés en Israël après la guerre de 1948. Ils ont longtemps été une minorité silencieuse, vivant aux côtés de leurs voisins juifs dans des villes mixtes comme Lod, Nazareth, Haïfa ou encore Jaffa. Pourtant, dans les faits, les Palestiniens d'Israël se considèrent comme des citoyens de seconde zone. Ils sont effectivement plus touchés par le chômage et la pauvreté que les Juifs d'Israël et les infrastructures dans les villes arabes sont délaissées par le gouvernement. Aujourd'hui, la cohabitation vole en éclat, mais ce n'est pas vraiment une surprise. Depuis des années, la haine est alimentée par des partis juifs d'extrême droite qui n'ont eu de cesse de stigmatiser les populations arabes. En 48 heures, les violences semblent être devenues incontrôlables des deux côtés. L'armée a été appelée en renfort, mais seule une parole politique forte pourrait ramener le calme. De telles scènes de violence n'avaient jamais eu lieu dans cette partie d'Israël.
Émilie Beaujard, et par mesure de sécurité, tous les vols en direction de l'aéroport de Tel Aviv sont déroutés jusqu'à nouvel ordre vers Eilat, dans le sud d'Israël.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Vous connaissez les points relais en ville pour récupérer vos commandes sur Internet? Eh bien, à Cézanne, dans la Marne, un agriculteur joue ce rôle pour les colis les plus encombrants. C'est un complément de revenu et ça lui permet aussi de faire connaître ses produits. Reportage Dimitri Ramelot.
Ouverture des portes du hangar. Le camion de livraison hebdomadaire vient d'arriver dans la cour de la ferme de Jean-Baptiste Vervy.
Faut que vous rentriez un tout petit peu le cul, en fait, à l'intérieur du hangar.
Trois palettes et six colis.
Ça marche. Je vous amène un petit transpalette pour monter dans le camion.
Et depuis deux mois, le rituel est le même chaque jeudi chez cet agriculteur partenaire d'une grande plateforme de vente en ligne.
Ça, c'est un hangar agricole et il me reste un peu de place. Donc, c'est pour ça que je peux stocker des colis. Donc, c'est des machines à laver, des piscines, on a un peu de salon de jardin. Je gagne entre 4 et 10 euros, quoi. Ça dépend des colis. Puis surtout, il y a un lien avec les consommateurs qui potentiellement peuvent acheter aussi nos pâtes.
Et parmi les clients qui viennent récupérer leurs colis, tous de plus de 30 kilos, Virginie, qui va également découvrir la production de pâtes 100% issues de la ferme.
Vous venez chercher une commode.
Une commode. Ça évite d'attendre toute la journée, oui, bien sûr. 10 euros la livraison ici, puis à domicile, 30 euros.
Sur la ferme, on va produire des pâtes à partir du blé dur de la ferme.
Ça sera l'occasion de venir en acheter, ma foi, pour les faire bosser.
Un flash code et quelques secondes plus tard, la commode est récupérée.
Eh ben, elle est forcément ici, c'est ça.
Prochaine livraison jeudi prochain et peut-être les premières ventes de paquets de pâtes locales.
Et on retrouve Pascal Pro à 12h55 sur RTL. Pascal, au programme.
Bah le foot, évidemment, ça va nous faire rêver un peu, le foot amateur, même si je suis un peu déçu, les gens, ça ne les fait pas rêver. Moi, ça me fait rêver.
Moi, je trouve ça intéressant de les entendre, justement, bah, tous exactement. Ceux qui votent contre.
Ce week-end, où êtes-vous? Que faites-vous? C'était l'exode à Paris. Les gens ont quitté la ville, manifestement. Nous, on travaille, mais je salue ceux qui nous écoutent et qui sont en dehors peut-être des villes et qui sont au camping, qui peuvent être en voiture d'ailleurs. Hier, ça a été l'enfer sur les routes. Un texte poignant que vous avez peut-être déjà lu, émouvant, quasiment un an après la mort de Guy Bedos, c'est Nicolas Bedos. C'est exceptionnellement écrit et il y a beaucoup d'émotions. Il a aidé son père à mourir et là encore, vous pourrez revenir sur ce sujet. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, il se trouve que dans l'actualité, deux députés ont parlé des clubs libertins, Jean Lassalle notamment, et vous avez peut-être écouté Cyprien Sini ce matin dans le surf. Eh bien, c'est peut-être intéressant d'écouter ce monde des libertins qui nous est parfaitement inconnu.
À qui vous donnez la parole à peu près tous les deux jours.
Non, arrêtez. Comment vivent-ils cette période? C'est une question qui peut nous intéresser, bien sûr. En tant que journaliste, bien sûr, en tant que témoin de l'actualité.
Pensez donc.
Comme vous le savez.
On a un témoin sur ce qui se passe au-dessus de nos têtes, c'est Louis Baudin. Ça.
Oui, mais alors je peux poser une question à Louis Baudin.
Mais je vous en prie.
Parce que ce matin, il a dit que le nuage revenait. C'est la première fois que j'entends ça. Qu'il y avait le même nuage au-dessus de nos têtes. Vous avez dit ça
tourner,
ce matin, Louis.
Le nuage tourne.
C'est le même nuage.
D'ailleurs, je pourrais le montrer parce que je l'ai exactement à l'écran.
Et que ça n'arrive jamais, surtout.
Si, ça arrive de temps en temps. C'est rarement, mais bien sûr que ça arrive. Et c'est vrai que c'est le cas.
Donc j'ai le même nuage que ce matin au-dessus de ma tête.
Qui va revenir là. Oui, hein, qui est passé par le Nord-Pas-de-Calais, qui a traversé le sud de l'Angleterre et qui revient actuellement par la Normandie. Exactement.
Mais quand vous dites c'est le même.
C'est la même masse nuageuse, c'est la même humidité, c'est la même masse d'air.
Ok.
Vous avez commencé en retard, c'est de votre faute. Pascal.
C'est pas grave parce que je trouve que c'est une question intéressante.
Bon, par ailleurs, c'est toujours aussi frais.
Et voilà, le résultat en tout cas, c'est que ça laisse de la fraîcheur sur la France avec des températures qui ne dépasseront pas les 12 à 14 degrés par exemple près de la Manche cet après-midi, 15 à 17 degrés dans la plupart des autres régions, au nord comme au sud. Il manque facilement 4 à 6 degrés pour être dans les valeurs de saison et 20 à 23 degrés péniblement près de la Méditerranée. Alors tout ça sous un ciel très changeant avec encore beaucoup de nuages, des averses sur quasiment toutes les régions. Puis au milieu de tout ça, quand même, des petites périodes d'accalmie. Alors, il ne faudra pas les manquer. Hein. Dès que vous voyez un rayon de soleil, vous sortez parce que vous pouvez être sûr que ça ne va pas forcément durer très longtemps. Sauf tout près de la Méditerranée où, quand même, les éclaircies seront un petit peu plus belles, un peu plus durables. Avec du vent qui soufflera en revanche près de la Méditerranée, notamment sur la Corse où on frôlera les 100 km/h cet après-midi.
Donc, si j'ai bien compris, pour ce long week-end, une longue séquence d'averses.
C'est ça, des averses. Je regarde la carte de demain. Alors, bon, ça continue hein, avec une alternance, passage nuageux, averses, neige en montagne. Hein, j'ai oublié 1400-1600 mètres. Seulement dans les Alpes d'Huon, bah oui.
Ça tombe bien, les remontées mécaniques ouvrent le 19 mai.
Elles vont peut-être servir finalement. Un peu plus de soleil quand même près de la Méditerranée. Puis en cours d'après-midi, allez, il y a espoir sur la façade atlantique pour ceux qui vont partir vers la mer. Oui, il y aura peut-être un peu plus d'éclaircies, un peu moins d'averses. Ailleurs, il ne faudra pas se faire d'illusions au milieu de ces passages nuageux et des éclaircies. Encore des averses parfois accompagnées d'orages. Puis les températures toujours aussi fraîches. Moins de 10 degrés le matin, 14 à 17 degrés l'après-midi au nord comme au sud. Il n'y a que près de la Méditerranée où parfois on atteindra un peu les 20 degrés.
Merci quand même, Louis.
Ah ouais, c'est gentil.
À suivre le rappel des titres, il va être 13h, on est un tout petit peu en retard. RTL.
Il est 13h01.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Vous le savez, c'est le pont de l'Ascension et les Français sont en week-end. Nous sommes avec Muriel qui est hôtelière. Bonjour Muriel.
Bonjour Pascal.
Ah, j'entends à votre voix que vous êtes heureuse parce que l'hôtel est plein peut-être.
Exactement, on est complet ce week-end.
Ah, bah, c'est la première fois depuis combien de temps?
Oula, bah, on a ouvert que le 7 mai.
Ah oui, donc effectivement, c'est la première fois depuis le 7 mai. Christelle, le rappel des titres.
Un appel à témoins lancé pour retrouver le fugitif lourdement armé en fuite dans les Cévennes depuis 48 heures. Il est soupçonné d'avoir tué son patron et l'un de ses collègues dans la Syrie où il travaillait. L'homme de 29 ans est un tireur chevronné. Une troisième nuit d'affrontement entre Israël et le Hamas, tir de roquettes contre l'État hébreu et frappes israéliennes sur la bande de Gaza. Le Hamas fait état de 83 morts depuis lundi. Les villes mixtes judéo-arabes s'embrasent. Un incendie sur un site industriel classé Céveso à dans le Val d'Oise, il y a une importante colonne de fumée noire. Le feu s'est déclaré dans une usine de traitement et revêtement de métaux. Il a été maîtrisé. Il y a encore 3 ou 4 mois difficiles à passer, c'est ce qu'estime ce matin Rémi Salomon, le président de la commission médicale des hôpitaux de Paris, avec le relâchement progressif des mesures de restriction. Si l'on vaccine beaucoup, explique-t-il, on peut passer l'été sans quatrième vague. Le petit club de foot de Rumilly-Vallières écrit ce soir une page de son histoire. Il rencontre Monaco en demi-finale de la Coupe de France, ça fait 21 ans qu'un club de 4e division n'était pas arrivé à ce stade de la compétition.
Les auditeurs ont la